rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Villon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 19 octobre 2022. En RDC, début du procès à Kinshasa de l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en 2021. Tension entre le Mali et la France lors du Conseil de sécurité de l'ONU.
Cette sortie fracassante de la part du ministre malien des Affaires étrangères, et même également du représentant de la France aux Nations Unies, a été attendue.
L'université malienne Ali Tunkara nous propose son analyse dans la partie magazine. En Algérie, un journaliste a été condamné, mais libéré après avoir purgé sa peine. Le président russe Vladimir Poutine décrète la loi martiale dans 4 régions annexées d'Ukraine. Ici aux États-Unis, face à la flambée du prix de l'essence, l'administration Biden va puiser dans les réserves stratégiques de pétrole. À suivre dans la minute éco, la Gambie s'est dotée d'un mécanisme pour lutter contre la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest et l'export. La NBA a repris du service. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. En République démocratique du Congo, 5 personnes ont comparu ce mercredi devant la justice militaire à Kinshasa pour l'assassinat en 2021 de l'ambassadeur d'Italie. Un 6e prévenu en fuite est jugé par contumace. Abdourahman Dia.
Le procès a commencé le 12 octobre, mais a été immédiatement suspendu à la demande des avocats commis à la défense qui avaient souhaité pouvoir prendre connaissance du dossier. De nouveau, le fond de l'affaire n'a pas été étudié à la reprise de l'audience mercredi. Un des avocats, Maître Joseph Hamzati, ayant demandé au tribunal militaire de se déclarer incompétent au motif que ses clients arrêtés à Goma sont des civils. Il a aussi réclamé leur remise en liberté provisoire. Ils clament tous leur innocence pure et simple, a-t-il martelé. Pour le compte du ministère public, le lieutenant-colonel magistrat Joseph Maliki Dogo s'est opposé à ces deux requêtes. Le tribunal a de nouveau suspendu donc les débats et prévu de rendre sa décision sur les demandes de la défense mercredi prochain. L'ambassadeur italien Luca Attanasio est mort le 22 février 2021 après avoir été blessé par balle lorsque le convoi du programme alimentaire mondial dans lequel il circulait a été pris dans une embuscade au nord de Goma, aux abords du parc national des Virunga. Son garde du corps italien et un chauffeur congolais du PAM ont aussi été tués.
L'armée soudanaise a accusé aujourd'hui des éléments du mouvement populaire de libération du Soudan Nord, un groupe rebelle qui a refusé de rejoindre l'accord de paix de 2020, d'avoir attaqué au mortier la ville de Lagoa dans l'état du Kordofan Ouest, dans le sud du pays. Au moins 12 personnes y ont trouvé la mort selon l'ONU, qui affirme qu'il s'agit d'un différend pour la terre entre la tribu arabe de Misiria et les membres de l'ethnie africaine Nouba. Le SPLM Nord a démenti toute implication dans ces violences. Le Burkina Faso a lancé une campagne de recrutement exceptionnelle de 3000 militaires pour renforcer les rangs de son armée dans la lutte contre les djihadistes qui ensanglantent ce pays depuis 7 ans, selon un communiqué du ministère de la Défense. Cette campagne intervient près de 2 semaines après un coup d'État mené le 30 septembre par le capitaine Ibrahim Traoré, dont l'objectif affiché est de renforcer la lutte anti-djihadiste. C'est la deuxième fois cette année que l'armée burkinabé, qui compte environ 30 000 hommes, organise un tel recrutement. La police du Malawi a annoncé aujourd'hui avoir découvert dans le nord du pays une fosse commune contenant des restes de 25 personnes présumées être des migrants venus d'Éthiopie. Le charnier a été découvert à mardi soir, mais nous avons sécurisé les lieux et commencé l'exhumation aujourd'hui. Jusque-là, nous avons découvert 25 corps, a déclaré un porte-parole de la police, Peter Kayala. Les commerçants d'Accra, capitale du Ghana, ont fermé boutique aujourd'hui dans le cadre d'une manifestation de 3 jours pour protester contre la flambée du coût de la vie aggravée depuis l'invasion russe en Ukraine. Dans le quartier des affaires et de pièces détachées de véhicules d'Accra, habituellement paralysés par les embouteillages, seuls les vendeurs de nourriture ambulants étaient visibles devant les commerces fermés. Accablé par une lourde dette, le Ghana a enregistré en septembre une inflation historique de 37%, tandis que la monnaie locale, le cedi, s'est effondrée par rapport au dollar américain. Un journaliste algérien poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste et diffusion de fausses informations a été condamné à 2 ans de prison, mais une association de défense des détenus a annoncé aujourd'hui qu'il a été libéré pour avoir déjà purgé sa peine. Rosine Monezero.
Mohamed Mouloudj, un journaliste du quotidien francophone Liberté, qui a cessé de paraître en avril, a été condamné hier soir à 2 années de prison, dont 1 an ferme, a précisé le Comité national pour la libération des détenus. Il a été arrêté le 13 septembre 2021, en même temps que 15 autres membres présumés du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un groupe séparatiste considéré comme terroriste par les autorités. Les arrestations ont eu lieu dans le cadre d'enquêtes sur des feux de forêt survenus en août 2021 en Kabylie. Sa peine a été couverte par sa détention provisoire qui a duré plus de 13 mois et le tribunal de Dar El Beida, dans la banlieue d'Alger, a ordonné sa mise en liberté immédiate. 6 autres personnes jugées dans la même affaire ont également été relâchées.
Le président malgache André Rajoel a limogé son ministre des Affaires étrangères, Richard Andriamandrot, sans donner d'explication, mais une semaine après un vote de Madagascar à l'ONU condamnant les annexions illégales russes du territoire ukrainien. Face à l'invasion russe de l'Ukraine, Madagascar a adopté une politique de non-aligné en dépit de l'invitation de l'Union européenne et des États-Unis à condamner la Russie. Mais le 12 octobre, Madagascar, avec 142 autres pays, a condamné les annexions illégales russes en Ukraine, tranchant avec la ligne politique adoptée par le pays depuis le début de la guerre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'instauration de la loi martiale dans les 4 territoires ukrainiens de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia, annexés en septembre par Moscou. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolai Patrouchev affirme que 5 millions d'habitants de ces régions ont trouvé refuge en Russie. Nathalie Barge.
Vladimir Poutine a justifié cette mesure en affirmant que Kiev refuse de négocier avec Moscou et continue, selon lui, à bombarder la population dans ces régions. Le décret instaure aussi un régime de sécurité renforcé dans la péninsule de Crimée annexée en 2014, ainsi que dans 6 régions frontalières russes. Un régime d'alerte renforcé est par ailleurs instauré dans le district fédéral central où se trouve Moscou. Dans le sud de l'Ukraine, les autorités d'occupation russes de la région de Kherson ont indiqué que les évacuations de civils ont débuté face à l'avancée des troupes ukrainiennes. Elles prévoient d'en déplacer jusqu'à 60 000 sur l'autre rive du fleuve Dniepr. Le général russe Sergei Sourovikine, chef des opérations en Ukraine, a admis une situation très difficile à Kherson, étendue dans l'ensemble du pays pour les forces russes. Les batteries ukrainiennes de défense antiaérienne ont abattu plusieurs missiles russes au-dessus de Kiev, selon le maire de la capitale, Vitali Klitschko. Dans le sud-ouest du pays, le gouverneur de la région de Vinnytsia affirme que son territoire est visé par des missiles russes et appelle à rester aux abris.
Le Parlement européen a annoncé aujourd'hui avoir décerné le prix Sakharov pour la liberté de pensée au peuple ukrainien en signe de soutien face à l'invasion par la Russie. Les 50 000 euros de dotation du prix seront distribués à des personnalités de la société civile ukrainienne. Le prix Sakharov, du nom de l'ancien dissident soviétique Andrei Sakharov, est décerné chaque année depuis 1988 à des personnalités ou des organisations qui défendent les droits de l'homme et les libertés. Fondamentale. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden, qui souhaite faire baisser le prix de l'essence, a appelé les entreprises américaines à augmenter leur production de pétrole sur le sol américain. Le point avec Eric Manirakiza.
Les États-Unis doivent augmenter de façon raisonnable la production américaine de pétrole, a déclaré le président depuis la Maison-Blanche après avoir confirmé que les États-Unis vont continuer de puiser dans leurs réserves stratégiques pour stabiliser les prix. Cette hausse de la production intérieure doit s'opérer sans retarder notre transition vers les énergies propres, a toutefois souhaité le président. M. Biden a par ailleurs réitéré ses critiques visant certains acteurs industriels de la filière des hydrocarbures. Les profits des raffineurs sont le double de d'habitude et les marges des distributeurs dépassent de plus de 40% la norme, a-t-il dit. Le président américain prévoit aussi de mettre en place un mécanisme de nature à reconstituer à long terme les réserves stratégiques. Le gouvernement américain se mettra à racheter du brut lorsque le cours du WTI descendra dans une fourchette comprise entre 67 et 72 dollars.
La première ministre britannique Liz Truss a rejeté aujourd'hui les appels à la démission de l'opposition après le revirement spectaculaire de son gouvernement sur le budget et la fiscalité, répondant à une question du chef de file du Parti travailliste, Keir Starmer, en séance au Parlement sur les raisons justifiant qu'elle reste à son poste. Elle a déclaré « Je suis une combattante, pas une lâcheuse ». Et la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, a confirmé aujourd'hui sa démission, invoquant l'utilisation d'une adresse e-mail personnelle, tout en exprimant ses préoccupations à propos de la direction de ce gouvernement dirigé par Liz Truss. Dans sa lettre de démission publiée sur Twitter, Suella Braverman reconnaît l'erreur d'avoir envoyé un document officiel à un collègue parlementaire de confiance depuis une adresse personnelle. Elle étrie en outre le fait que le gouvernement a brisé des promesses clés, citant notamment la lutte contre l'immigration illégale. Et puis le président de la République italienne, Sergio Mattarella, entamera demain jeudi ses consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement après la victoire de la droite aux législatives du 25 septembre. Ces consultations qui devraient mener à la nomination de Giorgia Meloni, leader du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, au poste de chef du gouvernement, s'achèveront vendredi en milieu de journée, a annoncé mercredi soir un communiqué de la présidence de la République. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Togo, une délégation d'officiels américains du département d'État, de la Défense et de l'USAID a rencontré hier des entrepreneurs du secteur privé qui privilégient l'économie inclusive. Ils ont passé en revue la stratégie des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité. Ce programme concerne également le Bénin, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Au Cameroun, le nouveau directeur de la société sucrière, Jean-Pierre Champeau, a annoncé ce mercredi que l'entreprise s'attend à des pertes de 10 milliards de francs CFA pour la campagne 2022-2023 à cause de la sécheresse. Le rendement a baissé de 30%, passant de 67 à 47 tonnes par hectare. Le gouvernement a autorisé l'importation de 42 000 tonnes de sucre. La Gambie s'est dotée d'un mécanisme pour lutter contre la cybercriminalité dans la sous-région. Un laboratoire numérique est remis par la CDAO aux autorités à Banjul ce mercredi. Il est équipé de matériel de dernière génération, notamment médico-légal, qui permettra de renforcer les capacités des structures en charge des enquêtes et de mieux coopérer avec les autres États membres.
Maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Basketball pour commencer, la NBA a repris du service.
Oui, pour cette nouvelle saison 2022-2023, les Golden State Warriors, champions en titre, se sont imposés avec une solide victoire aux dépens des Lakers, 123-109. En mode diesel, durant la première période, le MVP de la dernière finale, Steph Curry, a fini fort, 33 points au compteur côté Lakers. LeBron James a été très bon pour l'entame de sa 20e saison, tutoyant le triple-double, 31 points, 14 rebonds et 8 passes décisives. Un peu plus tôt, défaite par contre 1 pour le néo-français Joel Embiid et Philadelphie, battue 126-117 par les finalistes perdants de la saison passée, les Boston Celtics. L'attaque des Warriors, qui rêve de back-to-back, a ainsi commencé. Bucks, Clippers, Celtics, Heat, Grizzlies, Sixers, entre autres, ces candidats au titre se bousculeront cette saison pour détrôner Golden State, redevenu champion l'année passée dans le sillage du flamboyant Stephen Curry. Les supporters des Warriors n'entendent pas laisser filer le trophée.
Champion, champion, les Warriors, champion, tout le monde peut le voir. Nous sommes numéro 1 et nous allons le redevenir, alors préparez-vous.
Quand des moins de 20 ans, les matchs qualificatifs se poursuivent en Afrique du Nord.
Les deux matchs d'hier se sont terminés par des résultats nuls, 1-1 entre la Libye et l'Algérie. Le Maroc et la Tunisie ne sont pas parvenus à se départager non plus, 0-0. Les matchs de la deuxième journée sont prévus vendredi. Duel entre l'Algérie et le Maroc et la Tunisie fait face à la Libye. Pour rappel, le pays qui finira premier va se qualifier pour la phase finale prévue en Égypte.
Et pas de mondial pour N'Golo Kanté.
Le milieu de terrain français de Chelsea a été opéré des ischio-jambiers et sera indisponible pour 4 mois, ce qui le privera du mondial au Qatar. L'annonce a été faite par son club de Chelsea. La décision d'opérer a été prise d'un commun accord après consultation d'un spécialiste, explique le club londonien. Dans son communiqué, N'Golo Kanté n'a joué que les deux premières journées de la Première Ligue avec son club avant de rejoindre l'infirmerie. Depuis la saison 2019-2020, le milieu relayeur a raté plus de 60 matchs pour des blessures musculaires ou articulaires, ainsi que pour deux infections au Covid-19 à 31 ans. Et alors que son contrat expire à la fin de la saison avec Chelsea, Kanté risque de ne revenir qu'à la toute fin de l'hiver.
Page de sport VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré mardi devant le Conseil de sécurité que le gouvernement de transition exercerait son droit à se défendre si la France continuait à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale du Mali. L'ambassadeur français auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière, s'est insurgé contre des accusations diffamatoires et a défendu l'intervention française au Mali, affirmant que la France n'avait jamais violé l'espace aérien malien. Des accusations mutuelles qui soulèvent de nombreuses interrogations. Écoutez l'analyse d'Ali Tunkara, chercheur au Centre des études stratégiques et sécuritaires au Sahel.
Cette sortie fracassante de la part du ministre malien des Affaires étrangères, et même également du représentant de la France aux Nations Unies, a été attendue. Pour qui connaît le rapport tendu entre Bamako et Paris, il n'y avait rien d'étonnant que les deux interlocuteurs s'accusent mutuellement.
Et pourquoi est-ce que Bamako n'a pas saisi cette occasion pour présenter ses preuves?
Encore au propos de l'élite militaire au pouvoir, l'idéal serait d'avoir un créneau dédié à cet effet. Une réunion ordinaire des Nations Unies sur l'état, sur la situation du Mali, pour les autorités de Bamako, n'était pas un endroit idéal pour plaider les preuves dont elles détiennent les autorités de Bamako. Mais dans le même temps, pour beaucoup d'observateurs, à défaut d'avoir ce créneau spécial dédié à cet effet, serait mieux pour les autorités maliennes de saisir ce créneau en vue d'étayer toutes les preuves qu'elle posséderait contre la France quant à son immixtion dans les affaires internes, son probable soutien apporté au groupe radicaux violents et au-delà des autres accusations dont Bamako justement continue à brandir vis-à-vis de Paris.
Alors, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a trois pays africains, mais il y a aussi la Russie. Comment vous interprétez le silence hier de ces pays et aussi de la Russie?
Rappelons que le rapport entre les États, notamment ceux du Conseil de sécurité, qu'ils soient permanents ou non permanents, sont des rapports avant tout géopolitiques. La Russie regarderait davantage ce qu'elle a gagné en portant le dossier malien contre la France en termes de pertes quant à ses liens géopolitiques, voire économiques vis-à-vis de l'Occident. Et est-ce qu'il faut-il s'engager dans une aventure où on sait pertinemment qu'en termes de gains, en termes de profits, la Russie n'a pas grand-chose à gagner au Mali lorsqu'on compare ses intérêts en Occident? Je crois que ce sont des considérations, entre autres, qui ont certainement eu raison sur le Mali.
Et si le Mali continue de ne pas avoir cette opportunité-là de présenter ses preuves, quelles sont ses autres options?
Il semblerait, du point de vue juridique, de saisir plutôt des instances juridiques des Nations Unies. Mais tu dirais-tu que ce sont ces mêmes questions des droits des libertés? Il faudra que les pays membres permanents du Conseil de sécurité acceptent-ils également les tours si le Mali venait à saisir la direction de la Cour pénale, par exemple, d'accepter justement d'infliger les sanctions qui vont sortir à la suite de ce procès à l'encontre de la France-Afrique des Camps.
C'était Ali Tunkara, chercheur au Centre des études stratégiques et sécuritaires au Sahel, joint à Paris par Bagassi Koura. Human Rights Watch accuse des unités de l'armée de la République démocratique du Congo d'avoir combattu les rebelles Tutsi du M23 dans l'est du pays aux côtés du groupe armé d'origine Hutu rwandaise FDLR et de milices congolaises impliquées dans de graves exactions. Eddy Sangwa a joint à Goma le nouveau porte-parole des forces armées de la RDC, le général Sylvain Ekenge.
Je pense que vous avez suivi la réaction de notre président à Londres. Nous sommes un pays souverain, un pays organisé, avec une armée républicaine. Nous ne pouvons pas utiliser des groupes armés. On ne peut pas les utiliser. Ça, c'est le discours utilisé par le Rwanda à tout moment pour justifier l'agression de notre pays. Mais nous, on n'utilise jamais et alors jamais les groupes armés. Ça, c'est un faux débat qu'on veut introduire dans l'opinion. Et Human Rights Watch a exactement répercuté ce que les Rwandais disent. C'est désolant. Donc, je préfère même pas polémiquer là-dessus puisque ces histoires-là n'existent pas. On ne peut pas utiliser l'FDLR, on n'utilise pas les groupes armés. Nous avons une armée qui a des hommes. Qu'est-ce que ces FDLR feront alors que ce sont des groupes qui s'attaquent aux Congolais? Qu'est-ce que ces groupes armés feront alors que ce sont des groupes qui s'attaquent aux Congolais? On ne pourra jamais les utiliser dans l'armée. Et ça, c'est un discours qui est distillé par le gouvernement rwandais pour justifier, c'est un alibi pour justifier l'agression.
Mais ces accusations ont été reprises dans la feuille de route signée à Luanda. Donc on disait que les FRDC ou les Congo doivent cesser de...
On n'utilise jamais ça. Ça, ce sont les propos des Rwandais qui ont été repris dans ces documents-là. Mais nous, on n'utilise jamais les groupes armés, etc. Et s'ils sont capables de combattre les Rwandais depuis tous ces temps, ils n'ont pas fait pourquoi.
Mais
qu'est-ce qu'on gagnerait de les utiliser alors qu'ils n'ont même pas d'hommes formés, ils n'ont pas d'équipement, on les utilisera pourquoi?
Justement, c'est ça la question, qu'est-ce qu'ils sont devenus, combien ils sont, qu'est-ce alors, qu'ils sont?
C'est ça les grands problèmes, et allez-y comprendre que c'est de la pure propagande et sans alibi.
Général Sylvain Ekenge, le nouveau porte-parole des forces armées de la RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Le Cameroun déclare qu'une nouvelle épidémie de choléra provoquée par les inondations à sa frontière nord avec le Tchad et le Nigeria a tué au moins 17 personnes et l'on craint un bilan plus lourd dans des villages difficiles d'accès. Une réunion d'urgence des responsables et des organismes de secours a ordonné mercredi le déploiement de travailleurs humanitaires dans les hôpitaux à la frontière avec le Nigeria. Reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé au Cameroun, le récit est de Rosine Monezero.
Selon le ministère camerounais de la Santé publique, plusieurs centaines de cas de choléra ont été détectés à la frontière nord du pays avec le Nigeria. Au moins 17 personnes sont mortes et de nombreux civils se trouvent dans des conditions désespérées dans les hôpitaux. Le gouvernement a déclaré que le nombre de morts et de cas d'infection présumés pourrait être plus élevé car les travailleurs humanitaires ne peuvent pas se rendre dans les villes et villages difficiles d'accès. Selon le gouvernement, l'insécurité liée aux attaques terroristes de Boko Haram empêche les travailleurs humanitaires de porter assistance aux personnes soupçonnées d'être atteintes du choléra dans certaines localités situées à la frontière nord du Cameroun avec le Tchad et le Nigeria. Midiyawa Bakari est le gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun à la frontière avec le Tchad et le Nigeria. Il dit avoir présidé une réunion d'urgence ordonnée par le président camerounais Paul Biya mercredi.
Nous attendons de la population une adhésion massive. Il y en a qui n'ont pas d'électricité chez eux. D'autres consomment des eaux souillées. Donc tout ceci devrait interpeller les uns et les autres pour un retour à l'orthodoxie, question de stopper net. Donc la sensibilisation se poursuit, mais parallèlement, pour des cas juillet récalcitrants, la répression peut être engagée.
Bakary a déclaré que les travailleurs humanitaires dans les villes et villages touchés donnent des instructions aux civils sur la consommation d'aliments cuits et d'eau bouillante pour réduire la contamination et les infections par le choléra, en particulier chez les enfants. Il a appelé les civils à cesser la pratique de déféquer dans les ruisseaux, les champs, les forêts, les buissons, les lacs et les rivières et à se laver régulièrement les mains avec du savon et de l'eau propre. Selon le gouvernement, le Mayo-Sava, un département situé à la frontière nord du Cameroun avec le Nigeria, est le plus durement touché par l'épidémie de choléra. Roger Safo est le plus haut responsable du gouvernement dans le Mayo-Sava. Il dit que les agences de secours internationales donnent des produits d'hygiène personnelle aux enfants et des médicaments aux travailleurs humanitaires pour répondre aux besoins des civils dans les villes et villages touchés.
Nous avons déjà reçu des kits sanitaires du bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé basée à Maroua et de Médecins sans frontières qui a permis au personnel médical de prendre en charge les cas suspects, la désinfection des localités infectées en collaboration avec la communauté dans la division de Mayo-Sava.
Le gouvernement affirme que les inondations sont à l'origine du pic des cas de choléra. Ce mois-ci, plus de 1000 cas de choléra ont été signalés dans les états de Borno, Adamawa et Yobe, au Nigeria, qui partagent une frontière avec le nord du Cameroun et du Tchad.
Votre rendez-vous quotidien, 24/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Ici aux États-Unis, l'avortement est devenu un sujet clé de la campagne à l'approche des élections du 8 novembre, les deux principaux partis soutenant des positions opposées. Mardi, le président Joe Biden a déclaré que si son parti démocrate remporte la majorité législative, il codifiera le droit à l'accès à l'avortement dans une loi. Notre correspondante à la Maison-Blanche, Anita Powell, se penche sur cette question qui divise. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Tous les politiciens américains sont d'accord sur une chose. Au cours des trois prochaines semaines, les Américains seront confrontés à une décision majeure. Joe Biden, président des États-Unis.
Nous ne sommes qu'à 22 jours de l'élection la plus importante de notre histoire, à mon avis, de notre histoire récente du moins. Une élection où le choix et les enjeux sont limpides, surtout en ce qui concerne le droit de choisir.
De récents sondages classent l'accès à l'avortement en tête de liste des questions motivant les électeurs qui se rendront aux urnes début novembre pour pourvoir 470 sièges à la Chambre des représentants et au Sénat. Les démocrates de Biden s'opposent à la décision de la Cour suprême en juillet qui a révoqué le droit constitutionnel à l'avortement et renvoyé la décision aux États. Mardi, Biden a déclaré que si les démocrates remportaient la majorité, ils soutiendraient une législation visant à consacrer les droits fédéraux à l'avortement dans une loi. Les républicains veulent voir en général un accès restreint ou pas d'accès à l'avortement. Carole Tobias est la présidente du Comité national du droit à la vie. Elle a parlé à la VOA via Zoom.
Nous allons travailler aussi dur que possible pour protéger autant de vies que possible. Mais très franchement, même si un État autorise l'avortement, j'aimerais penser que dans un avenir proche, l'avortement sera impensable et que les femmes ne se feront pas avorter même si elles le pouvaient.
Cette question a aussi dominé certaines courses clés, comme la course serrée au Sénat en Géorgie. Herschel Walker, candidat républicain au Sénat.
L'avortement, vous savez, je suis un chrétien, je crois en la vie et je dis ceci aux gens, la Géorgie est un État qui respecte la vie et je serai un sénateur qui protège la vie.
Walker conteste les affirmations selon lesquelles il aurait payé pour qu'une ex-petite amie se fasse avorter en 2009. Les sondages montrent qu'environ les deux tiers des Américains soutiennent l'accès à l'avortement. Mais les sondeurs ne sont pas sûrs que cela influencera les élections. Ashley Kitzinger est de la fondation Kaiser Family.
C'est la question à $1 million. Donc ce que nous savons, c'est qu'au cours de l'été, l'accès à l'avortement est devenu un sujet très brûlant pour les démocrates. Nous avons environ la moitié des électeurs démocrates qui disent qu'ils sont plus motivés à voter à cause de la décision Dobbs. Et une plus grande partie d'entre eux ont déclaré que c'est leur problème numéro un et ce dont ils veulent entendre les candidats parler. Cela semble donc motiver les électeurs démocrates.
En campagne en Californie cette semaine, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré que cette question résonne bien au-delà des États-Unis.
Quand nous pensons aux gouvernements autocratiques du monde entier qui peuvent se tourner vers leur peuple et dire « Eh bien, vous voulez prendre l'Amérique et les droits comme exemple de ce que nous devrions faire ?» Eh bien, regardez ce qu'ils viennent de faire. Donc, par extension, ce qui vient de se passer aura inexorablement un impact sur les femmes du monde entier.
Le vote anticipé a commencé dans tout le pays et les représentants que les Américains choisiront début novembre vont avoir le pouvoir de façonner la politique sur l'avortement pour les années à venir.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Lyon à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph. Je vous souhaite une excellente soirée.